Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes au Libre Journal des Controverses, comme tous les samedis de 10h30 à midi. Je salue mon prédécesseur Nicolas Stocker, l'excellentissime Nicolas Stocker. Il a eu pour invité non moins très bon Olivier Piacentini. Ils ont pu parler en effet de la réelle situation économique française, pas brillante d'ailleurs. On se demande comment se fait-il que tout cela tienne encore. Bon, le socialisme devra tomber très vite. Est-ce qu'il tombera très vite? Je me pose la question. Donc voilà, je salue donc l'excellent Nicolas Stocker, notre maître à tous, Nicolas Stocker. Il part là du studio, et bien entendu Olivier Piacentini. Je salue Arnaud à la technique, le Steven Spielberg des techniciens. Il est là pour réaliser cette émission. Merci à lui. Et enfin, Jean-Loup, il prend la place de Patrice et Sylvie. Il est médaille de bronze des plus belles écritures, donc vous pouvez l'appeler, voilà, vous pouvez le contacter. Et n'hésitez pas, parce que je sais que vous aurez énormément de questions. Aujourd'hui, on va parler de Saint-Louis. On en parle trop peu, malheureusement, aujourd'hui en République. Et pour cela, je reçois Jean-Noël Toubon pour son livre Saint-Louis sur le chemin de la canonisation. Alors, cher Jean-Noël, vous êtes éditeur déjà ?
Alors déjà, merci de m'avoir invité.
Je suis très content de vous voir. Ça fait quelques temps que je vais vous inviter et j'oublie à chaque fois.
Vous
êtes un jeune éditeur ? Vous prenez des risques, ça c'est bien. J'aime les gens qui prennent des risques, qui ouvrent des structures.
C'est vrai que c'est un risque aujourd'hui de se lancer dans l'édition.
Qu'est-ce qui vous a pris ?
Qu'est-ce qui m'a pris ? Alors, j'ai commencé non pas par l'édition, mais par la réalisation de reportages, de chroniques historiques sur YouTube. Ça a commencé en 2016-2017, c'était vraiment en parallèle de mon métier premier. Et je voulais expliquer à la terre entière, un vœu pieux, toutes mes lectures, tout ce que je pouvais découvrir dans mes lectures, et notamment un livre qui m'avait complètement chamboulé sur le gouvernement de Saint-Louis. Ça, c'était à peu près en 2016. Et j'étais un petit peu surpris, étonné de constater à la lecture de ce livre qu'au cours de mes études, je n'avais pas forcément compris ce qu'étaient les rois de France à l'époque médiévale. Et donc, comme mon métier premier était l'audiovisuel, je me suis dit, voilà, je vais essayer de transmettre par le biais de la vidéo toutes mes différentes lectures. Donc ça a commencé par des chroniques d'histoire que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne Galia, notre histoire de France. Il y a à peu près 400 vidéos sur l'histoire de France. Alors l'histoire de France monarchique, c'est celle qui me fascine, qui me plaît, que j'ai envie de transmettre et qui a été un petit peu malmené par l'école de la République.
Justement, qu'est-ce qui a fait que ça vous a fasciné alors qu'on dit tant de mal sur Saint-Louis? On ressort par exemple des théories comme quoi il aurait le plus grave des péchés en République en l'an 2026, c'est-à-dire qu'il serait antisémite. Voilà, donc qu'est-ce qui fait que vous avez été...
Ça, je l'ai entendu, ça. Ouais. Évidemment, on parle d'antisémitisme qui est un anachronisme total, c'est-à-dire qu'un roi médiéval ne pensait pas en ces termes. L'antisémitisme était un contresens total à l'époque médiévale. Anti-judaïsme serait plus précis, d'ailleurs, mais il se positionnait en tant que roi très chrétien, finalement. Donc il pratiquait la politique de l'Église catholique à l'égard des Juifs, et d'ailleurs il n'a jamais expulsé les Juifs, chose que j'ai pu entendre ou lire dans différentes lectures. Ses prédécesseurs ou ses successeurs ont pu le faire de façon très éparse.
Ça, c'est pas important de revenir sur des choses qui sont vraiment très accessoires.
Mais du coup, c'est la République.
Je vous le dis. Mais la République, qu'est-ce qui a fait que un enfant de la République, enfin, on est des enfants de la République parce qu'on a été malheureusement dans ces écoles. Bah oui. Voilà, on a été formés malheureusement peut-être par elle. En tout cas, à notre adolescence et notre enfance, qu'est-ce qui a fait que vous avez bifurqué du chemin des valeurs de la République vers les valeurs de la France?
J'ai eu la chance d'avoir un entourage familial qui, au cours de différents dîners ou déjeuners familiaux, on a pu discuter de ces sujets historiques. Et moi, j'arrivais à ces repas avec toute la propagande républicaine. Jusqu'au jour où j'ai commencé effectivement à... Je m'intéressais depuis longtemps à l'histoire, donc je lisais des livres d'histoire, sans forcément chercher quelque chose. Et c'est à la lecture de ce livre sur Saint-Louis où je me suis rendu compte que finalement, les échanges que je pouvais avoir avec mon grand-père, mon oncle, mon cousin, peu importe, j'avais découvert quelque chose qu'on ne m'avait pas expliqué. C'est-à-dire que toute la partie Ancien Régime, Moyen-Âge, c'était quelque chose, c'était un gros mot finalement. Hein. Et je découvrais les rois de France avaient un peu plus, même énormément plus, le sens du bien commun qui aujourd'hui n'existe plus. Parce qu'ils avaient quelque chose que les monarques, entre guillemets, républicains n'ont plus, c'est la peur de l'enfer. C'est-à-dire qu'ils sont animés par quelque chose qui les dépasse en tant que rois très chrétiens, ils sont lieutenants du Christ, c'était de se sauver. Hein, et c'est précisément ça dans ce livre qui m'a totalement fasciné. On ne m'en avait jamais parlé finalement.
Même avec votre famille, vous n'avez pas ce type de discussion ?
On avait ce type de discussion, mais moi je trouvais ça un petit peu archaïque de parler de sauver son âme et surtout d'imaginer qu'un souverain avait cette volonté de sauver son âme. Quand Louis IX, Saint Louis, puisqu'on fête le 800e anniversaire de son sacre à la fin de l'année, 800 ans, c'était en 1226, toutes les initiatives du roi à travers son règne ont été animées par une seule volonté. Donc, dans toutes ses décisions politiques, il n'y avait qu'une seule volonté, c'était de se sauver. Parce qu'il avait à l'esprit quelque chose de très important, c'est qu'il allait devoir rendre des comptes là-haut. Aujourd'hui, nos gouvernants ne doivent rendre de comptes à personne. Ou en tout cas, on pourrait imaginer qu'ils doivent rendre des comptes à d'autres types de personnes. Mais très certainement pas le Christ. Et donc, ils doivent rendre des comptes à des banquiers, par exemple. C'est autre chose, c'est une autre mentalité. Donc, quand Louis IX, qu'on connaît évidemment aussi pour son sens de la justice, il savait très bien qu'il devait rendre une vraie, bonne et juste justice, si j'ose dire. Parce que derrière, il devra rendre des comptes. Et il a été baigné toute son enfance, toute son éducation, qu'elle soit par sa mère, Blanche de Castille, ou son entourage, puisque c'était des religieux essentiellement qui, à l'époque, éduquaient les jeunes princes, toute son éducation était tournée par cette peur du péché. Il y a cette fameuse phrase de Blanche de Castille qui a dit à son fils toute son enfance que je préfère te savoir mort que de t'imaginer commettre un seul péché mortel. Vous imaginez le sens, la puissance, la violence. Aujourd'hui, c'est une violence. Cette phrase est une violence.
C'est totalement différent de ce qu'on entend aujourd'hui. Lorsque vous voyez les informations, vous écoutez, je sais pas, parler de meurtre, et bien entendu, les journalistes vont toujours voir la famille, les proches, etc. On apprend que le fameux déséquilibré, malade de déséquilibre chronique, eh bien, était gentil, quoi. Il portait les courses, il permettait à la grand-mère de traverser la rue au passage piéton. Enfin, on a une forme de sacralisation, vraiment, du criminel. Et c'est là, quand même, le différentiel avec les mots de Blanche de Castille.
Exactement. Et puis même, la peine de mort est aujourd'hui quelque chose qui est totalement inimaginable pour le commun des mortels. S'imaginer de devoir condamner à mort quelqu'un qui a tué une autre personne, aujourd'hui, on ne peut même pas l'envisager. D'ailleurs, l'Église moderne, aujourd'hui, condamne la peine de mort, sauf que l'Église traditionnelle, l'Église de toujours, a toujours été plus ou moins, même plus que moins, en faveur de la peine de mort, puisque le souverain a la violence légitime. Donc Louis IX, au même titre que les autres souverains, ont toujours eu à l'esprit de devoir rendre la bonne justice à ses... Il y a d'ailleurs une anecdote qui est très intéressante sur le règne de Saint-Louis. C'est quand un petit seigneur de Bretagne avait affaire avec Charles d'Anjou. Charles d'Anjou, c'est le petit frère de Saint-Louis. Un autre type de souverain, puisqu'il a été roi de Naples, beaucoup plus tourné, beaucoup plus politique que spirituel par rapport à son frère. Et ce petit seigneur a eu affaire avec Charles d'Anjou. Il a été emprisonné de façon injuste par Charles d'Anjou. Et ce petit seigneur a réussi à faire en sorte que le roi Louis IX, Saint-Louis, a été mis au courant de cette injustice selon ce petit seigneur. Ce qu'a fait Saint-Louis, c'est qu'il a demandé à ce que son frère, Charles d'Anjou, et ce petit seigneur viennent à Paris pour pouvoir entendre le différend entre les deux personnages et que Louis IX, Saint-Louis, allait rendre justice, la justice suprême, entre ces deux personnages. Le petit seigneur ose dire au roi, mais rendez-vous compte, Charles d'Anjou est un prince infiniment plus important, riche que moi, il aura les moyens de se défendre, moi je n'aurai pas ces moyens de se défendre. Quelque part, l'affaire est déjà entendue. C'est presque une injustice que de me laisser me défendre seul par rapport à Charles d'Anjou. Il y avait un réel déséquilibre. Saint-Louis entend cette remarque très pertinente. Qu'est-ce qu'il fait? Je le rappelle, il est face à son propre frère. Il a dit, je vais vous mettre à disposition mes plus grands personnages de loi du royaume pour vous défendre. In fine, c'est son frère Charles d'Anjou qui a été condamné et le petit seigneur a eu gain de cause. Tout ça pour vous dire quoi? Aujourd'hui, on serait tenté de dire que ce serait plutôt l'inverse. Ce sont les puissants qui vont avoir gain de cause par rapport aux plus petits. Et là, le souverain, il s'en moquait de savoir que c'était son frère qui était mis en cause. Lui, ce qu'il cherchait avant tout, c'était que la justice soit rendue, la réelle justice. Et bien ça, ça ne peut être possible que parce que Louis IX savait que, in fine, il allait devoir rendre compte, peu importe si c'est son frère, rendre compte, est-ce qu'il a vraiment été un souverain juste? C'est ça qui l'animait.
Pourquoi Louis IX et pas, je sais pas moi, Louis VI, le Gros par exemple, qui est un bon roi, hein, ou Philippe le Bel? Moi j'aime beaucoup Philippe le Bel.
C'est pas le même type de roi, effectivement, c'est le petit-fils de Saint-Louis. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est l'esprit médiéval. L'esprit médiéval, c'est une grande époque, une longue époque, où il y avait énormément de liens entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Le pouvoir temporel, les rois étaient au service du spirituel. Hein, ce qu'on appelle la doctrine des deux glaives, c'est-à-dire que le pouvoir temporel se met au service, il met son épée au service du spirituel. Toute la période médiévale est basée sur ce principe-là qui a régi tous les siècles médiévaux. À partir de Philippe le Bel, il y a une petite cassure. C'est-à-dire que le roi de France veut pouvoir décider en son royaume de la partie spirituelle, pour faire très très court et très très simple. Donc tous les rois médiévaux...
Charlemagne aussi, lorsque...
Il a toujours défendu la papauté.
Oui, mais lorsque le pape mis sa couronne sur la tête de Charlemagne, il n'était pas content, hein.
Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que dans leur décision et leur vision du monde, ils ont toujours eu à l'esprit qu'ils n'étaient qu'au service de la papauté. Quand ils partent en croisade, les rois, c'est toujours avec l'approbation de la papauté. C'est jamais une décision qui se fait seule. Hein. J'oserais dire qu'à une époque, pas très lointaine, quand les gouvernements veulent partir en guerre, ils demandent l'autorisation de l'ONU. J'ose cette comparaison un petit peu hasardeuse. Mais à l'époque, c'était la papauté qui décidait de partir ou non en croisade. Parce qu'ils étaient au service. Et Pépin le Bref, par exemple, qui a permis au pape d'avoir ses propres états pontificaux, c'est parce qu'il a mis son épée au service de la papauté qui était en guerre avec les Lombards autour de la papauté. Depuis ce temps-là, le royaume de France a toujours été un royaume particulier animé par une volonté de défendre le Christ. Et ça, c'est la partie médiévale. Donc Louis VI, Louis VII, grand roi aussi très pieux, Philippe Auguste, Saint-Louis, etc., ce sont des rois qui étaient toujours sur ce schéma-là. À partir de l'époque Renaissance, par exemple, c'est tout autre chose.
Pourquoi François Ier était plus pour un pouvoir personnel? C'est vrai qu'il a eu ses démêlés avec Charles Quint et fameux Saint Empire germanique.
Mais on revient sur un esprit avant la chrétienté. C'est-à-dire que on arrive progressivement dans un culte de l'homme, si vous voulez. C'est-à-dire que quand Louis XIV construit Versailles, c'est surtout pour la plus grande gloire de Louis XIV. À l'époque de Saint-Louis, la construction énigmatique, symbolique de l'époque de Saint-Louis, c'est la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle au service de Dieu.
C'est vrai que c'est un sacré différentiel. Même si, vers la fin de sa vie, Louis XIV était devenu assez pieux.
Oui, il y a deux grandes époques.
Un peu bigot même.
Exactement. Mais c'est pour vous dire que la vision du monde des rois de France évolue à partir de Philippe le Bel, où il y a une cassure avec son différend avec Boniface VIII, le pape Boniface VIII. À partir de ce moment-là, d'ailleurs je crois me souvenir que Mélenchon, qui n'aime pas beaucoup les rois de France, je vous l'accorde, mais est beaucoup plus tendre avec Philippe le Bel, hein, par exemple. Cette volonté
oui,
de se dissocier de la papauté.
C'est vrai que Philippe le Bel,
le début du gallicanisme.
Il y a ça, bien sûr, mais il y a aussi les excellents romans les Rois Maudits, et puis à l'époque de Monsieur Mélenchon, il y avait cette série télévisée, j'imagine qu'il a dû la regarder, peut-être pour ça aussi. Tiens, une dame nous a appelé, bon, alors, c'est pas très politiquement correct sa question, mais bon, voilà, allons-y. On est quand même à Radio Courtoisie. À l'époque, les Juifs étaient considérés comme, entre guillemets, fils du diable ayant crucifié Jésus. Ils étaient brûlés à Paris sur l'île aux Juifs. Je sais pas, tiens. Où furent brûlés plus tard les Templiers.
En quelle année?
À l'époque
de Saint-Louis.
Je n'ai pas l'année.
À l'époque de Saint-Louis, on a brûlé les Talmuds. D'ailleurs, l'époque médiévale abhorrait le Talmud, pas l'Ancien Testament.
Oui, ce qui n'est pas la même chose, il faut préciser. Hein.
Pas du tout. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est un ancien juif converti au catholicisme qui a alerté Saint-Louis, la papauté en premier, des écrits, du contenu même du Talmud, qui était, c'est le moins qu'on puisse dire, très insultant à l'égard du Christ et de la Sainte Vierge. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une volonté de la papauté de devoir sanctionner les écrits, le Talmud, dans tout le royaume de France et dans tous les royaumes chrétiens d'ailleurs. Et Louis IX n'a pas, en fidèle soumis à l'Église, a mis en place avec sa mère, d'ailleurs c'est surtout sa mère à l'époque, au début de la décennie 1240, entamé un procès du Talmud. Et donc des charrettes, ouais. Des chartés de...
Sûr, mais moi je vais vous dire, le problème aujourd'hui, déjà, c'est que entre les profs de la République, je ne sais même pas s'ils sont au courant de l'histoire de France en général, hein, je vous le dis très sincèrement, et le côté un peu bisounours, je veux dire...
C'est caricatural. Moi, j'ai réalisé une vidéo sur ma chaîne que vous pouvez aller voir, sur des écrits qui ont servi aux professeurs de la Troisième République, je crois.
Là, vous parlez déjà de gens un peu cultivés.
Non, c'était à destination des professeurs pour les écoles.
Ah.
Et dans ces ouvrages, c'était Ernest Lavisse, pour ne pas le nommer, c'est vraiment insultant pour l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des écrits du style « Le roi n'était pas gentil ».
C'est-à-dire qu'en fait, comme il calque l'époque actuelle avec l'époque d'antan, je veux dire, le roi de France, Louis IX, est parti en croisade et il a porté le glaive et il est mort à Tunis.
Oui,
voilà. Enfin voilà. Et s'il est mort à Tunis, c'est pas parce qu'il était berbère. Je le dis à des gens de la diversité peut-être qui nous écoutent. Parce que maintenant, on apprend que Beethoven était gabonais. C'est dingue, hein. Où nous sommes, hein.
Il y a une belle histoire aussi. Il y a un ouvrage qui a été publié sur ce sujet, un petit ouvrage d'ailleurs. La prunelle de ses yeux, je sais plus exactement le titre, excusez-moi. Qui parle de Louis IX quand il était en croisade, la première croisade de Louis IX, 1248-1254. Il a converti, évidemment, un grand nombre, avec les clercs présents sur place, un grand nombre de musulmans à la foi catholique. Il faut être honnête intellectuellement, il y a aussi eu des chrétiens qui se sont convertis à l'islam. Mais bon, ce qu'il s'est passé, c'est que lui savait très bien, Saint-Louis, que là-bas, en Terre Sainte, les nouveaux convertis au christianisme étaient en danger de mort s'ils restaient en Terre Sainte, en Palestine. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramené en France, au Royaume de France, on estime à peu près à 1000 personnes, hein, 1000 anciens musulmans convertis à la religion catholique, et les a installés au Royaume de France. Donc, il y avait cette volonté aussi de protéger les nouveaux convertis, et il y a aussi un procès en racisme à l'époque, hein, c'est-à-dire qu'on partait du principe qu'il y avait une haine à l'égard des musulmans quand on partait en croisade. C'était pas comme ça que l'homme médiéval pensait.
Voilà, Louis IX n'était pas islamophobe.
Non, pas du tout. Lui, ce qu'il cherchait vraiment, c'est à convertir. Quand il était en prison, quand il était lors de sa première croisade, il a énormément échangé avec le sultan, qu'il a d'ailleurs bien traité, et il a lu le Coran en prison. Donc il a eu un échange viril avec le sultan sur ce qu'il a lu dans le Coran. À aucun moment, le sultan l'a traité d'islamophobe. Hein, évidemment, à l'époque, on ne pensait pas comme ça. Et il a eu des mots extrêmement durs à l'égard de ce qu'il lisait, hein, et il y a eu un échange intellectuel entre les deux hommes, alors que Louis IX était en prison. Et le sultan lui dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que si je veux, demain, maintenant, je vous mets à mort, par rapport à ce que vous êtes en train de me dire, finalement. Et il y a cette phrase de Saint-Louis qui est juste extraordinaire. Saint-Louis ne craignait pas la mort comme tous les grands catholiques, tous les grands saints. La mort corporelle, pour eux, c'était pas le plus important. Ce qu'il craignait le plus, c'était la mort spirituelle. Il a dit, je préfère mourir dans cette geôle et de savoir que j'ai converti une seule personne à la foi catholique. Le sultan a été chamboulé de cette phrase de Saint-Louis. Le sultan s'est rendu compte que finalement Louis IX n'avait pas du tout peur de la mort. Donc la menace que le sultan lui disait ne l'effrayait absolument pas. Ce n'était pas un moyen de faire pression sur lui, le fait de l'exécuter. Donc il y avait des rapports, comment dire, entre les deux personnages qui avaient une foi différente et qui étaient en combat, en guerre. Il y avait un rapport de respect entre les deux ennemis. Et ça, c'est quelque chose dans notre monde moderne qui n'existe plus. Il n'y a plus de respect entre des adversaires aujourd'hui quand nous sommes en guerre. Il y a une volonté de détruire, d'annihiler, de vraiment d'humilier, etc. À l'époque, ça ne se passait pas comme ça. Il n'y avait pas une volonté de détruire. Il n'y avait pas une volonté de mettre à mort systématiquement.
C'est-à-dire que quoi, à l'époque, on n'aurait pas pendu Saddam Hussein, par exemple?
Voilà. Et cette violence, même télévisée, c'est-à-dire que c'était en mondiovision. Hein, tout le monde a pu constater de la violence, que ce soit l'Occident, mais aussi les adversaires, dans sa marche dans les deux sens. Et ça, c'était quelque chose qui était inenvisageable, parce qu'on avait un sens de la vie, et la volonté, c'était de la conversion, des deux côtés d'ailleurs.
Comment vous l'expliquez, ça?
Eh bien, j'en reviens à ma colonne vertébrale qui animait tous les rois de France. C'était des chrétiens, des catholiques, qui cherchaient à plaire à Dieu.
Ça démontre que la spiritualité, lorsque on la fait supprimer de la société, comme c'est on le fait actuellement.
Ce qui se passe, c'est l'inverse, exactement.
Bien sûr. Quand on la fait supprimer, eh ben, on a d'autres croyances qui émergent. Et la plus grande des croyances, c'est le capitalisme globalisant, on va dire.
C'est le nouveau Dieu.
Voilà.
L'argent.
Et donc, on a les valeurs de ce capitalisme. Et in fine de la République.
Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui de faire le mal? Rien. Je serais même tenté de dire, dans l'inversion des valeurs que nous vivons aujourd'hui, c'est même l'inverse. On vous invite à faire le mal et on vous ridiculise quand vous cherchez à faire le bien. Et quand j'entends, c'est une phrase qu'on entend très souvent, hein, aujourd'hui s'il y a des guerres, c'est à cause des religions. C'est juste l'inversion totale des valeurs. C'est parce qu'il n'y a plus de foi qu'il y a des guerres. Les plus grands crimes de l'humanité, ce sont des hommes, souvent païens, communistes. Et Louis IX détestait la guerre à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Il le disait même dans ses écrits. Avant de faire la guerre, veillez bien à ce que ce soit une guerre juste, légale, etc. Parce que, il le précisait, ce sont toujours les pauvres qui en pâtissent de la guerre. Donc Louis IX n'a jamais engagé de son propre chef de guerre en presque 50 ans de règne, ce qui est assez rare.
Justement, qu'est-ce qui a fait que il a tenu aussi longtemps? Est-ce que en effet il y a eu une forme de d'amour populaire, quoi?
L'amour populaire a commencé très tôt, et d'ailleurs quand il revient de Tunis, donc il passe par l'Italie, il remonte tout le royaume de France, le peuple de France l'a accompagné de Marseille jusqu'à Paris. Sur le trajet du cercueil de Louis IX, il y avait le peuple qui cherchait à tout prix à toucher le corps de Louis IX, qui, on l'appelait déjà, le Saint-Roi. D'ailleurs, les ennemis de Louis IX appelaient Louis le Saint-Roi, c'est vous dire.
Qu'est-ce qui fait que, justement, on l'appelait le Saint-Roi? Est-ce que c'était essentiellement des questions de foi, de justice peut-être?
Surtout la justice. Quand les barons anglais, quand le roi d'Angleterre était en conflit violent avec ses propres barons. Tout ça, c'est issu de la bataille de Bouvines. Le roi d'Angleterre a perdu énormément de pouvoir et les barons en ont gagné énormément. C'est la Magna Carta, c'est après Bouvines. Le roi d'Angleterre était le cousin de Saint-Louis. Les deux femmes étaient sœurs. Et à partir, au moment du traité de Paris, en 1259, le roi de France a gagné la bataille sur le roi d'Angleterre. Donc les barons très, très excités à l'idée de récupérer énormément de territoire sur le roi d'Angleterre. Louis IX n'a pas voulu. Louis IX a dit non, nous sommes en famille et dans l'intérêt de conserver une bonne entente entre nos deux familles, la famille d'Angleterre et la famille de France, je ne vais pas restituer une partie des territoires que nous avons acquis par la bataille. Donc, il y avait vraiment une volonté de ne pas chercher la puissance, la gloire. C'est pas les rois du Moyen-Âge n'avaient pas cette volonté d'empire qu'il y a eu beaucoup plus tard. Napoléon, par exemple.
Et même, il n'avait pas la volonté d'empire des Germains, par exemple.
Non.
Même au Moyen-Âge, parce que les Germains au Moyen-Âge ont eu cette volonté.
Oui, même le pape, quand, qui était en conflit avec l'empereur Frédéric II, qui n'était pas un grand catholique, c'est le moins qu'on puisse dire, le pape a même proposé la couronne impériale à Saint-Louis, à son frère Robert d'Artois. Et Saint-Louis a dit non, j'ai déjà bien affaire dans mon royaume de France. Il n'y avait vraiment pas du tout cette volonté de chercher à dominer. C'est aussi ce qu'on dit souvent, que la République dit souvent, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté de dictatoriale des rois de France. Mais c'est exactement l'inverse. Je pense sincèrement que le roi de France avait infiniment moins de pouvoir sur le peuple qu'en ont aujourd'hui les gouvernants sur les peuples.
Il y a cela aussi. Et puis, je pense qu'il faut définir précisément aussi, par exemple, certains statuts, comme celui du cerf. Où aujourd'hui on nous explique que c'était une sorte de servage et où d'appartenance par un propriétaire seigneur, des choses comme ça. Et même, on parle aussi de l'impôt, on nous a dit, comme pour la Révolution, ah, pourquoi il y a eu la Révolution ? Parce que les impôts de Louis XVI, vous comprenez.
Mais
ça n'avait rien à voir avec impôts revenus, CSG, TVA, CRDS, etc.
Complètement. Je pense que les gens oublient vraiment qu'ils vivent dans une époque qui se rapproche infiniment plus de ce qu'on pourrait considérer comme de l'esclavage qu'à l'époque médiévale. Quand un roi de France se déplaçait sur un territoire dont il n'était pas le suzerain pour imposer quelque chose, il était accueilli. Il était accueilli, il était contraint même de repartir assez vigoureusement parce que le pouvoir était local. Le seigneur avait le pouvoir de décider un certain nombre de choses et le roi de France avait du réel pouvoir en son domaine. Hein. À part les grands sujets, tout le reste, c'était les seigneurs qui décidaient. Donc aujourd'hui, nous vivons dans une époque où les salariés, etc., ont infiniment plus de taxes sur leurs épaules et... Je pense que c'est une illusion de s'imaginer que l'homme médiéval était beaucoup plus asservi qu'aujourd'hui. Je vois des circonstances aujourd'hui où je suis consterné de voir le niveau de soumission qui est quand même total.
Crédit CDI ou CDD, et là, vous avez quelqu'un soumis à 200%.
L'objectif, c'est qu'effectivement, vous puissiez vivre, juste de quoi survivre, même pas vivre, hein, juste de quoi survivre, pour que vous soyez suffisamment à l'aise, c'est vraiment entre guillemets, pour que vous n'ayez pas à vous à réagir. Quoi.
Vous avez dit peuple de France, c'est quand même tellement plus beau à l'oreille que citoyen.
Ah, ça, disons-le. C'est un terme républicain, évidemment.
Dites-moi, comment s'est faite justement cette canonisation ? Est-ce qu'on a tout de suite pensé à en faire un saint ? Voilà, quel était le cheminement ? Qui en a décidé ?
Donc, je précisais que de son vivant, beaucoup le considéraient déjà comme un saint personnage de par sa vie. Saint-Louis assistait à des messes tous les jours. Il passait un temps fou en prière. Il avait deux confesseurs, un confesseur de jour, un confesseur de nuit. La liste, elle est vraiment très très longue. J'en parle d'ailleurs dans l'ouvrage du quotidien de Saint-Louis. Donc à partir du moment où il meurt, en 1270 à Tunis, tout de suite va s'engager un procès de canonisation. Souvent, même tout le temps, les procès de canonisation émanaient soit d'ordre religieux, soit de l'entourage du roi qui envoyait entre guillemets un dossier à la papauté qui devait l'analyser. Et ensuite, ils envoyaient sur place des émissaires de la papauté, des cardinaux très souvent, pour pouvoir enquêter. C'est comme ça que ça se déroulait. Donc, à partir du moment où Saint-Louis est arrivé à Saint-Denis, son corps a été exposé à de nombreuses semaines. On venait de toute la France sur le tombeau de Saint-Louis pour pouvoir espérer une guérison. On a des exemples incroyables d'hommes, de femmes, du petit peuple, des enfants aussi, venir gratter le cercueil de Saint-Louis pour en conserver vraiment quelques petites traces chez soi. Il y a eu des guérisons incroyables. Donc, des cardinaux sont venus sur place à Saint-Denis et ont commencé à écouter un grand nombre de personnes qui ont vécu des guérisons, etc. Donc évidemment, sur le nombre considérable de personnes qu'ils ont entendues, ils n'ont pas tout retenu, ils n'ont consigné qu'un certain nombre de personnes. Ils ont enquêté sur l'entourage du roi, sa famille, mais aussi des personnages qui ont côtoyé le roi. Et c'est ça qui est intéressant. On peut imaginer que la famille avait un parti pris sur la question. Mais ils ont interrogé aussi des personnages, que ce soit des artisans, que ce soit des petits seigneurs, etc., qui ont côtoyé le roi. Et chacun devait témoigner de ce qu'il a pu constater, de ce qu'il a pu voir sur le comportement de Saint-Louis. Et il faut dire qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que le procès a pu déboucher sur la canonisation, que 27 ans après la première enquête. Il a été canonisé en 1297 et les procès ont commencé en 1272 à peu près. Pour une raison toute simple, qui est quand même dramatique, c'est un grand nombre de cardinaux, mais aussi de papes, sont morts. Donc à chaque fois, il fallait une dizaine quand même de papes et de cardinaux qui se sont succédés. Donc il a fallu à chaque fois reprendre le procès de canonisation. Et c'est Philippe le Bel, à l'époque, en 1297, qui était présent avec toute la famille royale. Et c'est Boniface VIII qui a canonisé le roi. Donc ce sont des enquêtes qui ont été menées. On a aujourd'hui des traces de cette enquête. Pas beaucoup, parce que les traces ont disparu, mais il en reste quelques témoignages de confesseurs du roi qui sont très, très édifiantes. Hein. Quand on lit ce que les confesseurs ont raconté de qui était Louis IX, qui était Saint-Louis au quotidien, c'est... Franchement, vous lisez la vie de Saint-Louis, vous lisez son quotidien, vous en avez la larme à l'œil. C'est-à-dire qu'il était animé par une seule chose, c'est de faire le bien, mais à un niveau qui confine à la sainteté. C'est-à-dire qu'on est tous animés, je l'espère, par la volonté de faire le bien dans notre quotidien, mais là, c'était quand même à un niveau assez extrême.
Jean-Noël Toubon, Saint-Louis sur le chemin de la canonisation aux éditions...
Vox Gallia, ma propre maison.
Vox Gallia. Est-ce que Saint-Louis... voulait justement... est-ce que de son vivant, il aurait accepté cette... Enfin, est-ce qu'il aurait accepté à sa mort cette béatification?
Bon, c'est compliqué de s'imaginer ce qu'il aurait pu imaginer. Déjà, il ne voulait pas d'un tombeau fastueux. Il voulait vraiment une pierre, tout ce qu'il y a de plus simple, par humilité, bien évidemment. Bon, avec le temps, on lui a adressé un tombeau majestueux. Mais son humilité me pousse à dire que... Pour qu'un homme de cette trempe se confesse deux fois par jour, on se demande bien ce qu'il pouvait confesser. Donc c'est dire son niveau d'exigence en termes de foi et de piété. Donc je ne sais pas ce qu'il aurait pu dire. Je pense que son humilité l'aurait peut-être poussé à imaginer qu'il n'en était pas digne.
Alors, l'île aux Juifs est citée dans l'ouvrage de Laurent Daillet, Les Templiers, Jacques de Molay fut brûlé le 11 mars 1314.
Ça, c'est après Saint-Louis, quand même.
Oui, mais je ne connais pas cet auteur. C'est un historien, vous le connaissez, Laurent Daillet?
Non, de nom, non.
Bon, excusez-moi, je connais pas ce livre de M. Laurent Daillet.
C'est ce que je précisais, hein, que ce soit Philippe Auguste qui a cherché aussi à les exclure du royaume ou Philippe le Bel, ce qui est une réalité. Saint-Louis a toujours demandé aux Juifs de ne plus pratiquer l'usure qui, selon lui, appauvrissait le peuple. On pourrait en dire beaucoup aujourd'hui. Et il leur demandait de pratiquer des métiers nobles, des métiers manuels nobles. Voilà, c'était sa volonté.
Alors, bravo pour cette émission. L'église Saint-Louis d'Antin détient une relique de Saint-Louis que chaque 25 août, le curé présente après la messe et que les fidèles peuvent embrasser.
Bah oui, pendant plusieurs siècles après la mort de Saint-Louis, ses restes ont été un peu dispersés à travers l'Europe. C'est pas forcément un mal d'ailleurs. Ce sont souvent des reliques de saints qu'on offrait à des grands souverains. Voilà, des rois de France ont offert une partie de Saint-Louis un peu partout en Europe et dans le monde d'ailleurs.
En parlant de Saint-Louis encore, j'étais très choqué que le reliquaire de la couronne de Saint-Louis ait été remplacé à Notre-Dame.
C'est une laideur.
C'est une laideur.
Mais c'est ce que je vous disais. C'est ça, c'est un cercle, on dirait un rite chamanique. Je ne sais pas ce que c'est.
C'était une couronne extraordinaire de Saint-Louis et on l'a remplacée. Mais la République n'a honte de rien.
Non, c'est l'inversion des valeurs. En fait, ce qui est beau devient laid aujourd'hui et ce qui est laid devient beau. Hein, on fait la promotion du laid, de la laideur. Donc, ça dit beaucoup de notre société.
On sait ce qu'est devenu ce reliquaire?
J'imagine qu'il est conservé à Notre-Dame, j'en sais pas plus. Mais je ne sais même pas ce qui est exposé aujourd'hui quand ils ressortent cette relique. Est-ce qu'ils ressortent vraiment cette relique? Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit à Notre-Dame est effrayant.
Vous êtes retourné à Notre-Dame?
Non.
Moi non plus.
Je n'ai pas encore eu cette
J'ai peur de le faire. Quoi.
Ouais, c'est vrai que mais je sais que je vais y aller.
J'ai appris qu'il y avait des marchands du temple à l'entrée. Et déjà, ça ne me plaît pas.
C'est vrai que c'est payant, c'est ça?
Alors.
Non, on ne paye pas.
Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est Disneyland, quoi. D'après les témoignages que j'ai entendus.
Est-ce qu'on doit être surpris? Moi, je pose la question. Parce que finalement, est-ce que si nous avions eu une cathédrale refaite dans l'esprit médiéval avec une architecture, un mobilier qui flatte, qui met en valeur le Christ, est-ce que ce n'est pas ça qui aurait été étonnant?
C'est vrai.
Est-ce que nous vivons dans une époque...
Ben, non, pas tant que ça, parce que malgré tout, le mal ne se montrait pas. Il était quand même dans la discrétion.
Vous faites bien de parler au passé.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Parce qu'aujourd'hui, les gens s'en moquent à un niveau du beau et de Dieu, etc. Pour eux, ce sont des choses un petit peu ridicules. Je pense que je vais être un peu un brin provocateur. Je pense qu'il faudrait aller encore plus loin pour que ce soit encore plus visible, pour que ce soit encore plus laid. C'est-à-dire qu'on essaie de conserver, je dis bien on essaie, hein, parce que c'est quand même violent, on essaie de conserver malgré tout un brin d'esthétisme. Et je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin. Là, j'ai vu récemment un événement dans une église.
LGBT
ouais.
Sainte-Chapelle, chapelle de
Sainte-Jeanne d'Arc. Là, au moins les choses sont claires.
Bah écoutez, peut-être, mais ça n'a pas choqué les riverains de cette chapelle.
Non, c'est vrai. Bah, je suis désemparé. Je ne sais pas.
Et les gens. Sont assez conquis lorsqu'ils témoignent de leur visite à Notre-Dame.
C'est vrai que les JO
hein.
a plu. Hein. La cérémonie d'ouverture et de clôture des JO.
Donc ça, je ne comprends pas, en fait. Enfin, si, je comprends. Mais...
Et je pense même que s'il y avait un roi comme Saint-Louis aujourd'hui, excusez-moi, à la tête du gouvernement, je pense même qu'il serait très mal reçu. On n'est absolument pas prêt à entendre... la vision du monde que pouvait avoir Saint-Louis.
Bah justement, quel aurait été le message de Saint-Louis s'il avait été présent en 2026?
Il aurait chassé les hérétiques, puisqu'il les a combattus au tout début de son règne avec les cathares, mais vraiment sur la fin. C'est pas lui qui a fait l'essentiel du travail, si j'ose dire.
Alors, rappelez-nous, tiens, ce que sont les cathares et ce qu'ils ont fait en France, surtout en province.
Bah, les cathares, c'est...
Parce qu'on se rappelle, c'est très peu, on en parle très peu. Hein.
Dans le Midi, on en parle beaucoup.
Oui, dans le Midi, c'est vrai.
C'est une hérésie qui a fait rage au XIIe et au début du XIIIe siècle, un petit peu sur la fin du XIIIe siècle. Une hérésie dualiste, c'est-à-dire que selon eux, il y a deux divinités, hein, donc le bien et le mal. Donc c'est pour ça qu'on parle de dualisme. Donc toute la partie corporelle, c'est le diable, le corps humain. Et la partie spirituelle, c'est Dieu. Donc à partir de ce principe, ils avaient une détestation viscérale du corps, de la vie physique. Et penser comme ça, ça amène à des pratiques douteuses, pour ne pas dire choquantes. Et d'ailleurs, on peut comprendre, après coup, pourquoi l'extrême gauche a récupéré cette spiritualité. C'est parce que les cathares, par exemple, refusaient de se reproduire. Puisqu'ils avaient une détestation du corps, mettre au monde un nouvel être, c'était créer une nouvelle entité pour que le diable puisse s'y misser. Donc déjà ça, plus faire d'enfants. On retrouve ce parallèle aujourd'hui. Ils ne mangeaient pas de viande. On ne pouvait pas imaginer de manger la chair des animaux. On retrouve ça avec le véganisme. Ils avaient une détestation de l'Eucharistie, bien évidemment. Imaginez-vous, manger le Christ. Donc ils avaient une détestation de la religion catholique. Certains d'entre eux, ça s'appelle l'Andoura, se laissaient mourir. Hein, parce qu'ils avaient une telle détestation de leur propre corps qu'ils voulaient en finir au plus vite. Donc c'est le suicide. Vous voyez qu'on est vraiment sur des colonnes vertébrales que nous retrouvons aujourd'hui et on peut comprendre que certaines personnes d'extrême gauche puissent s'y retrouver dans cette détestation du clergé, de l'Église catholique, le véganisme, etc., le suicide. Donc, c'est vraiment une idéologie mortifère. D'ailleurs, les plus optimistes des contemporains disaient, mais est-ce que c'est nécessaire de les combattre, puisque leur idéologie mortifère va les amener à disparaître naturellement, finalement. C'est une vision des choses. Les rois de France n'ont pas eu cette vision des choses. Et ce qui est souvent oublié, que je rappelle dans mon deuxième livre sur le péril cathare, un livre que j'ai écrit en 2022, c'est qu'on parle souvent, évidemment, quand on parle des cathares, c'est l'horrible Église catholique, les horribles rois de France qui ont massacré les cathares, qui étaient des personnages tout à fait gentils, qui voulaient simplement pratiquer leur religion dans leur coin. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, comme à chaque fois, en fait. C'est ça aussi que j'ai découvert quand j'étais plus jeune. C'est à chaque fois, ce n'était pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est beaucoup plus subtil. Pendant 50 ans, voire même 100 ans, l'Église catholique, par l'intermédiaire de ses évêques, qui ont été envoyés sur place, ont cherché à convertir les hérétiques, pas par le glaive, mais par le verbe. Et c'est Saint Dominique qui a énormément œuvré en ce sens. Saint Dominique qui a parcouru le Midi en long, en large, en travers, pour réaliser des controverses, c'est-à-dire des débats publics avec les hérétiques, dans l'espoir de les convertir à la vraie foi. Et ça, ça s'est passé pendant au moins 50 ans. J'en parle dans la croisade spirituelle qui a précédé la croisade militaire. Et la croisade militaire n'a commencé uniquement parce qu'il y a eu un légat pontifical qui a été assassiné par un hérétique. Là, c'était le crime de lèse-majesté. Donc à partir du moment où vous assassinez un légat pontifical, ça revient à assassiner le pape. Donc c'est à partir de ce moment-là uniquement que la croisade militaire s'est engagée. Mais pendant très longtemps avant, on a cherché à les convertir par la foi.
Jean-Noël Toubon, Saint-Louis sur le chemin de la canonisation. On va passer au Bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci à vous d'être toujours aussi nombreux tous les samedis matins, surtout que c'est un long week-end après, avec un vendredi 1er mai. J'espère quand même que vous nous écoutez, malgré que vous soyez en congé. Le Bobino, c'est quoi ? C'est parce que c'est vous, en fait. On vous rappelle que vous êtes les patrons de Radio Courtoisie. Si vous ne l'étiez pas, nous aurions eu des annonceurs comme tous les grands médias dits subventionnés. C'est-à-dire que ces annonceurs aurait choisi les thématiques, les sujets et les invités. Ce n'est pas le cas ici à Radio Courtoisie. Nous sommes libres et indépendants. Et donc, vous en êtes les patrons et nous vous sommes redevables. Donc, continuez à soutenir Radio Courtoisie. Laurent Daillé est un spécialiste reconnu de cette période. Il est mort en 1991. Il a examiné et confronté 14 500 documents originaux pour restituer sans parti pris la véritable histoire de deux siècles de cette époque et des ordres religieux. Bah tiens, il faudra se pencher sur Monsieur Laurent Daillé. Voilà, je suis désolé de ma méconnaissance. Bonjour messieurs, surprenant d'entendre que des croisés se convertirent à l'islam. En ces temps-là de guerre et dans tel contexte, s'agissait-il de nobles, de marchands, de soldats? Quand on sait qu'être hérétique pouvait parfois mener au bûcher, le double chef d'accusation, renégat à la foi et traître à la nation, ne devait pas militer en faveur d'une longue vie. Quelle serait, s'il vous plaît, au moins une seule source pour ces conversions au Proche-Orient? Autre chose, n'exaltons pas outre mesure Louis IX, s'il vous plaît. Pendant son règne, on mettait à feu à sang le Midi, on brûlait vif et sa soldatesque martyrisait le peuple du Sud, cathare ou pas. Ah.
Le livre, c'est La prunelle de ses yeux. Je l'ai vraiment de mémoire. C'est un tout petit ouvrage. Vous pouvez taper Les conversions de Saint-Louis. À la prunelle, vous tapez La prunelle de ses yeux. C'est un historien américain qui a écrit sur le sujet. C'est quelque chose qui aujourd'hui est tout à fait avéré. Pour les conversions des croisés, effectivement, je voulais juste préciser qu'il y en a eu. C'est-à-dire que quand vous aviez un sultan et ses sbires qui vous demandaient de renier votre foi ou de subir la mort, certains ont renié leur foi, tout simplement. Finalement, ça a existé. Voilà, je ne veux pas dire que l'essentiel des croisés se sont convertis à l'islam.
Mais dans
un conflit, forcément que ça arrive.
Voilà. Mais hérétique, l'islam était considéré comme hérétique ou pas?
Alors non,
ça aussi, voilà.
Pour eux, c'était une non-religion, finalement. Ils avaient beaucoup
c'est pas comme le protestantisme.
Exactement, ou même le judaïsme. Le judaïsme, pour eux, c'était juste des chrétiens qui étaient en devenir, en fait, des catholiques en devenir. Mais l'islam était une comment il en parlait quand il échangeait avec le sultan, c'était une abomination, une série d'erreurs, etc. Donc il avait des termes assez durs à l'égard de l'islam. C'était pas une religion... Louis IX avait beaucoup plus d'échanges et une volonté de convertir les juifs de son royaume que l'islam, finalement, qui n'existait pas au royaume de France. Mais il y avait quand même cette conversion, mais pour eux, c'était pas, non, pour lui, c'était pas une religion comme pouvait l'être le judaïsme. Tout à fait.
Et donc, du coup, oui, la dernière partie, voilà, est martyriser le peuple du Sud, Qatar ou pas?
Oui, mais c'est une question de point de vue. C'est vrai qu'il faut se transporter au XIIIe siècle.
Dites-nous.
On voit ça avec les yeux, comme vous le disiez très justement, avec les yeux contemporains. Mais dans un conflit qui a duré quand même 20 ans hein, dans le midi de la France, ça s'est arrêté en 1229 avec un autre traité de Paris, etc., où il y a eu une paix. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a... Il y avait une volonté de convertir le comte de Toulouse, Raymond VI, et après Raymond VII, qui à chaque fois acceptait les propositions du souverain français d'arrêter de soutenir les hérétiques, parce que le comte de Toulouse soutenait systématiquement les hérétiques. Et c'est surtout les élites du Midi qui étaient converties à l'hérésie cathare. Très peu le peuple, finalement, il y en a eu, mais très peu. Donc il y avait cette volonté aussi de ramener les élites, le comte de Toulouse et la population à la vraie foi. Il faut s'imaginer que c'était aussi dans une volonté d'apaiser le royaume. C'était quelque chose qui était assez dangereux pour le peuple de maintenir cette hérésie. Quand je vous expliquais un peu ce qu'il prenait comme valeur, en tant que souverain, on ne peut pas soutenir une hérésie.
Est-ce que les Cathares... formaient, comme je sais pas, les protestants de Rochefort, un état dans l'état?
C'était des petits seigneurs. Je ne pense pas qu'on puisse parler en ces termes, si ce n'est à Montségur, par exemple, qui a été vraiment la fin du combat contre l'hérésie cathare, le château de Montségur, vraiment dans les montagnes, où là, vraiment, il y avait une société à part entière qui résidait sur place à Montségur. Mais ce n'était pas du tout dans le même ordre que le protestantisme. C'était beaucoup plus diffus dans la société, on se cachait malgré tout. Mais j'insiste encore une fois, c'est qu'il faut surtout y voir le prisme de la conversion voulue pendant des décennies, et on ne pense qu'à la partie militaire.
Est-ce que ça signifie que la centralisation a commencé peut-être avant la monarchie absolue, et peut-être avec Louis IX?
Oui, c'est vrai que la justice, par exemple, c'est Louis IX qui a initié ce très beau progrès, on avait la possibilité de faire appel au roi. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment les débuts avec le Parlement de Paris, après son retour de croisade, il a souhaité vraiment, il a été transformé hein, par la croisade, par l'échec après Damiette à Mansoura. Il a voulu vraiment tout faire pour être un acteur important de la justice dans son royaume, avec la création du Parlement de Paris, etc. Et donc oui, il y avait cette volonté, j'ai oublié votre question, excusez-moi.
Mais est-ce que la centralisation, voilà, justement, a commencé avec lui?
Donc il y avait des bribes de la centralisation, effectivement.
Donc en tout cas, judiciaire, elle a...
Voilà, oui. Judiciaire, avec la monnaie aussi, la volonté de créer une monnaie.
La monnaie, forcément.
À la fin de son règne. Et donc, comme je le disais...
Est-ce que la féodalité meurt avec l'arrivée de Saint-Louis?
Régine Pernaud a écrit un magnifique ouvrage avec un titre merveilleux, c'est « Le crépuscule de la féodalité ». Et le titre dit tout. Quand Louis IX veut repartir en croisade en 1270, l'essentiel des barons du royaume ne veulent plus y aller. Ils préfèrent rester dans leur baronnie, dans leur comté, dans leur duché. Jean de Joinville, qui est le plus fidèle ami de Saint-Louis, même lui n'y va pas, il ne veut plus y aller. Donc il y a vraiment cette fin... de l'esprit médiéval, de l'esprit d'aller vouloir évangéliser les peuples, comme le demandait le Christ, à partir de la fin de son règne, effectivement. Et après, on voit aussi une bascule à partir de son petit-fils.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fameux Moyen-Âge qui est honni, vous dire les choses.
Mais pourquoi il est honni? Parce qu'il est catholique, hein, c'est tout. Hein.
Le reste, d'après vous, c'est que pour ça?
Bah surtout pour ça, pas que, mais surtout pour ça.
On l'a beaucoup ridiculisé, même dans le cinéma.
Bah, c'est ce que j'allais dire.
Rappelez-vous avec Les Visiteurs, par exemple.
Au nom de la rose?
Oui.
Pourquoi dans le cinéma, vous faites très bien d'en parler, on ne réalise que des films sur Louis XIV, le Faste, etc. Les hommes en tutu, les hommes avec...
Ceux qui ne l'étaient pas spécialement.
Parce que c'est beaucoup plus rock'n'roll, sexy, de montrer ce genre de choses. Hein. Par contre, si vous réalisez un film sur la vie de Saint-Louis, qu'est-ce que vous êtes obligé, vous êtes contraint de montrer? Un homme qui prie, un homme qui se confesse, un homme qui veut servir le Christ absolument. Bon, bah ça, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite forcément montrer. Donc, dès qu'on parle de l'époque médiévale, on est contraint. Même Jacques Le Goff, qui n'est quand même pas non plus le premier des catholiques, l'historien du XXe siècle, Jacques Le Goff, a écrit une somme sur Saint-Louis. Bon, bah, il l'appelle le Christ-Roi, en fait, le Roi-Christ, plutôt, parce que Christ-Roi, c'est autre chose. Et on est obligé de parler de la foi catholique. Et on sait très bien que les républicains, c'est leur ennemi principal, la foi catholique.
Mais c'est-à-dire qu'avec Saint-Louis, il y a une bascule vers une autre forme d'époque par rapport à avant lui.
Non, non, c'est l'aboutissement, pour moi, c'est l'apothéose même de l'époque médiévale, Saint-Louis. Hein. C'est-à-dire que les rapports avec l'Église ont toujours été courtois, parfois un petit peu difficiles. Philippe Auguste, par exemple, son grand-père a été excommunié pour ses relations conjugales, par exemple. Donc ça, c'est complètement inenvisageable avec Saint-Louis. Il n'a eu qu'une seule femme, avec des enfants, etc. Donc ça s'est vraiment amélioré avec le temps. Les rois médiévaux étaient des rois un petit peu virulents parfois, très, très guerriers. L'Église a réussi à canaliser un petit peu cette fougue avec la paix de Dieu, la trêve de Dieu. Hein. C'est-à-dire que c'était une volonté de l'Église de devoir canaliser l'énergie des seigneurs qui se tapaient entre eux pour certains à l'époque de Louis VI. Donc voilà, l'Église a réussi à façonner les mœurs des seigneurs de l'époque. Et Saint-Louis, c'est l'apothéose dans le sens où l'Église avait très peu de choses à lui reprocher.
Et qu'est-ce qui fait que, justement, les seigneurs n'ont pas essayé de le destituer, si je puis dire?
Si.
Ils n'ont pas réussi, on va dire.
Ils n'ont pas réussi parce qu'on était en 1227. Donc Saint-Louis avait 13 ans. Il venait d'accéder au pouvoir. Et on voyait d'un très mauvais œil qu'un enfant puisse régner. Hein. Et surtout que la régente, même si on ne parlait pas de régence à l'époque, la baïstre, hein, la personne qui avait la charge de l'enfant, c'était Blanche de Castille. Donc imaginez-vous la double peine. Un enfant et une femme qui dirigent le royaume, les barons l'ont très mal vécu. Ce qui s'est passé, c'est que le roi a été... il s'est caché à Montlhéry, au château de Montlhéry, qui est à 60 minutes à peu près de Paris, au sud de Paris, qui est un château historique des Capétiens. Il savait très bien que les barons encerclait Montlhéry pour pouvoir kidnapper le roi, pour pouvoir gouverner à sa place. Je caricature, je fais très simple, mais c'est ça l'idée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là le début de l'amour entre le peuple et Saint-Louis. Blanche de Castille a fait envoyer les milices communales de Paris, qui étaient très, très attachées au roi depuis Bouvines, puisque c'est les milices de Paris qui ont aidé Philippe Auguste à gagner Bouvines. Le peuple de Paris a pris des fourches, des faux, des piques. Ils ont marché jusqu'à Montlhéry, 60 km, jusqu'à Montlhéry, pour récupérer le roi qui était caché dans une tour du château de Montlhéry, et ils l'ont ramené à Paris, encerclé par le peuple de Paris. Les barons, voyant cela, ils ont rebroussé chemin. Est-ce qu'on imagine d'aller chercher Manu, caché?
C'est ce que j'allais vous dire, et c'est là où ça démontre que la fin de la spiritualité et l'arrivée de la religion de l'antéchrist, qu'est le capitalisme mondialisé, eh bien, fait que... parce que les gens ne sont pas prêts à mourir pour la République,
non.
Ils sont pas prêts à mourir pour la laïcité et pour leurs dogmes, etc.
Ils sont prêts à mourir pour...
pour le roi.
À l'époque, oui, mais aujourd'hui, ils sont peut-être prêts à mourir pour la perte d'argent, la perte de confort.
Je ne sais pas s'ils sacrifieraient leur vie. En tout cas, à l'époque, ils auraient sacrifié leur vie.
Oui.
Je veux dire,
il y avait un amour sincère.
Mais bien sûr. Parce que souvent, on me dit, oui, mais tu comprends quand même, les gens ont été éborgnés. En effet, les gens ont été éborgnés. On y était, moi j'y étais.
J'y étais aussi.
J'ai filmé, j'ai fait toutes les semaines ces reportages. C'est vrai qu'en effet, certains ont été des martyrs. Et vraiment, je salue leur courage. Mais... ces Français qui sont allés délivrer
le roi, ils ne se sont pas posé de questions.
Ils ne se sont pas posé de questions là, non. Et n'auraient pas été victimes de LBD. Ça aurait été un peu plus dur, non. Parce que la cruauté, on va dire, enfin la cruauté, rapport aux critères d'aujourd'hui, je parle, hein, d'un militaire d'antan, c'est pas celui d'un CRS d'aujourd'hui.
Il y avait un respect de la vie, c'est-à-dire que les barons savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas attenter à la vie du roi, il était sacré.
Bien sûr, mais n'oubliez pas que lorsqu'on vous attrapait à l'époque parce que vous avez fait des conneries...
Oui, c'est sérieux.
Vous n'allez pas.
C'est pas un stage.
C'est pas un stage avec des hamsters. Vous n'allez pas.
Bien sûr.
Vous passiez pas 3 semaines à la santé.
Exactement. Mais je pense que le cinéma n'a pas aidé à comprendre la violence médiévale. On voyait vraiment ça. Quand on regarde certains films, on s'imagine la cruauté des clercs. Des seigneurs, alors ça existait à l'époque de Louis VI, d'ailleurs Louis VI a réussi à réprimer certains de ces seigneurs qui étaient d'une violence assez inouïe, mais c'est un peu caricatural parfois.
Oui, parce que les gens voient Robin des Bois, les films de Robin des Bois avec le seigneur de Locksley, et puis ils calquent ça sur, sur tous les autres.
Ouais, c'est ça. non, mais ça existait, j'espère vraiment pas essentialiser, mais je pense que les gens comprennent aussi mon amour pour l'époque, mais forcément, tout n'était pas vrai.
J'ai un auditeur qui me dit « Merci de ne pas confondre centralisation avec le principe de subsidiarité. »
C'était l'époque médiévale. Ouais.
Je suis désolé. Cher Mike, cher invité, un zozo prénommé Jean-Luc veut, pour de mauvaises raisons démagogiques, déboulonner Louis XVI et supprimer Saint-Louis sans savoir que ce n'est pas lui qui décide de sa sainteté. Mais il ignore que si nous avions un roi sur le trône de France, il serait le roi de tous les Français, y compris de Jean-Luc, quel qu'il soit, et pas de 50,1% des Français, bien courtoisement.
Ouais. Bah, c'est vrai, c'est le principe de la démocratie.
Mais cette légitimité aussi royale, liée au très simple, à Dieu.
Oui. Le sacre faisait de vous et un personnage différent du reste.
Elle est quand même puissante. Elle est beaucoup. Je vais prendre l'exemple des rois de France. Bon, il y a eu Henri IV, certes, qui a été assassiné. Un ou deux autres, je ne sais plus.
Oui, Henri II, je crois, qui a été assassiné par Jacques Clément.
En tout cas, voilà. Il y en a eu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu. Bon, le régicide de Louis XVI, ok. Mais par rapport aux empereurs romains,
il
n'avait pas cette légitimité.
Ouais.
Il n'y a pas eu ce massacre.
Exactement. Et d'ailleurs, cette légitimité était tellement importante que quand Louis VIII, le père de Saint-Louis, meurt à Montpensier après s'être battu contre les cathares, le Saint-Louis n'a que 12 ans. Et donc Blanche de Castille sait très bien qu'il faut se dépêcher de le sacrer pour que les barons ne puissent pas attenter à sa vie ou prendre sa place. Donc en 3 semaines, elle a organisé le sacre à Reims. C'était extrêmement important de sacrer le roi. À partir du moment où il l'était, il avait une légitimité surnaturelle.
Jean-Noël Toubon, Saint-Louis sur le chemin de la canonisation. Bonjour, l'ignoménie de la République et l'avènement de Satan a commencé avec la profanation des tombes des rois de France à Saint-Denis.
Nous y étions il y a quelques semaines pour une visite guidée que nous organisons maintenant avec ma femme. Qui est guide conférencière, et nous organisons de plus en plus de visites sur des lieux emblématiques comme ça pour parler de l'histoire de France autrement que par les livres et par les vidéos, et d'aller sur place évoquer l'histoire de France sans le prisme républicain qui est vraiment insupportable pour quiconque a déjà assisté à des visites guidées. Moi, j'en ai fait quelques-unes ces dernières années, c'est insupportable.
Qu'est-ce qui se dit ?
C'est du féminisme, les rois étaient misogynes, on calque vraiment notre époque sur l'époque médiévale. Donc, on organise ce genre de choses. On est allé à Saint-Denis il y a une semaine. Organiser cette visite, ça s'est très bien passé, effectivement. Ce qui s'est passé à Saint-Denis est juste dingue de barbarie.
Mais le fait que, déjà, le général de Gaulle ait donné la ceinture, fameuse ceinture rouge, où se trouve la ville de Saint-Denis, aux communistes, c'est quand même...
Pour
quelqu'un qui se dit catholique, comme le général de Gaulle, c'est un minimum, un blasphème, si je puis dire.
Il n'a pas fait que ça, il a arrêté
la maçonnerie. Mais ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Parce qu'aujourd'hui, si Saint-Louis sortait de son tombeau et qu'il voyait Saint-Denis...
C'est une tristesse. Et d'ailleurs, quand vous rentrez dans la basilique, la sociologie est toute différente.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire que vous ne voyez pas les mêmes personnes en dehors de la basilique qu'à l'intérieur.
Bah, c'est, vous voyez plus Dupont-Durand parce qu'ils ont apostasié.
Ils ont apostasié. Finalement, c'est un châtiment qui, je pense, est légitime. Nous avons tous plus ou moins apostasié à des niveaux différents. À un moment donné, il faut aussi payer l'addition. Et je m'inclus dedans comme tous les Français.
Bien sûr, totalement. La basilique Saint-Sernin de Toulouse contient de très nombreuses reliques de cette période. Pour comprendre la situation dans laquelle nous sommes, il faut se souvenir qu'à la fin des temps, Dieu libérera le diable pour un combat entre les deux équipes, celle du ciel et celle des démons, pour qu'à la fin n'en triomphe qu'un seul, l'amour.
C'est vrai. Bah, l'amour, Christ.
Bien sûr. Oui. L'anachronisme est un mal très répandu à notre époque. On le constate dans certains commentaires que vous lisez. Il est idiot de juger le passé avec les yeux d'aujourd'hui.
Ils font tout ça.
Notre regard est faussé par le droit de l'homiste, le wokisme, le pacifisme, le modernisme, l'antiracisme. Comment l'Européen moderne châtré peut juger correctement le génie de ses ancêtres ?
Mais complètement, c'est très bien dit. Moi, je le constate sur ma chaîne YouTube, les différents commentaires.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, justement, les gens ?
Bon, bah, je suis assez content de constater que l'essentiel des commentaires sont plutôt bienveillants. J'ai très peu de haters, comme on dit. On ne parle pas anglais ici, je crois.
Non, bon, mais c'est pas grave.
Je dois de l'argent. Je dois de l'argent, c'est ça.
Oui, mais j'ai pas. Ah si, bah, il y a toujours là, tiens.
Excusez-moi. Mais les personnes qui laissent des commentaires désagréables sont. Je pourrais même faire la liste des sujets sur lesquels.
Ben, allez-y.
Les Qatars, les croisades, l'Inquisition. Qu'est-ce qu'il y a le Talmud. J'ai fait un sur le procès du Talmud. À chaque fois, ce sont les mêmes griefs, hein. C'est-à-dire qu'on est d'horribles... L'Église catholique...
Comment vous l'expliquez, ça ?
Mais parce qu'ils ont, très bien écouté à l'école. On ne peut pas leur reprocher d'avoir appris leur leçon. Et quand ils rentrent chez eux après avoir écouté leur leçon, ils allument la télévision, la radio, les journaux, et on continue à leur matraquer ce genre d'idées selon lesquelles les rois, et surtout l'Église catholique... L'Église catholique est responsable d'à peu près tout, hein. C'est-à-dire, c'est assez simple. Hein. C'est-à-dire, dès que quelque chose de mal s'est produit dans l'histoire, c'est l'Église catholique. Et donc, il faut avoir un réflexe à partir du moment où vous entendez ce genre de choses. Quand c'est excessif, c'est souvent vain. Donc, dès que vous entendez quelque chose d'excessif, dites-vous, ah, là, je pense que c'est exactement l'inverse qui s'est passé.
C'est totalement réel. Le problème étant, c'est que les grands médias du système influencent les gens. J'en ai parlé d'ailleurs avec Jean-Yves Le Gallou, qui pourtant a une émission très intéressante immédiate sur TVL, oui. Et il explique que lui-même, malgré le fait qu'il informe justement sur ces grands médias, qu'il en parle constamment, lui-même est influencé in fine.
Ouais, c'est puissant.
Oui, parce que la publicité, quand on marchait dans la rue, parce que le fait que... 50 journalistes en même temps disent la même chose parce que le matraquage constant des images, eh bien il me dit oui, moi-même sur certains sujets je suis influencé par les médias du système. Alors imaginez celui qui n'a pas toutes ces précautions.
C'est très difficile de se défaire de ce qu'on a appris. Et il y a aussi quelque chose qui se produit en soi quand on commence à découvrir le poteau rose. Il y a un côté aussi humiliant de s'imaginer qu'on a été un peu le benêt de l'histoire, c'est-à-dire qu'on a accepté de croire tout ce qu'on nous a appris sans forcément aller chercher l'information. Aujourd'hui, sur Internet, il y a énormément de personnes qui réalisent des micro-trottoirs, sur différents sujets d'ailleurs, et je suis consterné de constater que les gens recrachent l'idéologie, mais sans même comprendre ce qu'ils sont en train de raconter.
Si c'était que ça, ce serait encore beau, hein. Parce que, bon, pour faire des reportages terrain, je ne peux plus les réaliser auprès des moins de 30 ans. Je vais vous dire pourquoi.
C'est fini, ouais.
Parce qu'ils n'ont pas les mots pour expliquer.
Exactement.
C'est-à-dire que si je dois garder une minute, je me dois derrière de poser 10 questions.
Ouais.
C'est dingue, hein.
Ouais.
C'est-à-dire que des gens me disent, oui, mais tu mets beaucoup de boomers, génération d'après-guerre, et parce que cette génération d'après-guerre a culture, phrasé, vocabulaire.
Ouais. Construire une phrase, c'est compliqué.
Voilà, et je suis désolé, mais et c'est eux qui s'informent, et c'est eux qui comprennent, voilà. Et je ne peux pas, moins de 30 ans, ce n'est pas possible.
Je ne sais pas comment on peut se tirer de ce...
Je ne sais pas.
De cette difficulté, parce que les générations qui vont arriver à l'âge adulte, ça va être difficile, très violent.
Très bonne émission, toutefois, remplacer, ok, pas d'accord.
C'est vrai ça, j'essaie.
Nous sommes influencés.
Il y a beaucoup de travail.
C'est dingue. Hein.
C'est bien.
Quand on voit les vidéos de Lina, moi j'aime bien les regarder.
Ça me fait pleurer. C'est dingue, je rigole, mais c'est... Des enfants de 13 ans, 14 ans.
Dans les années 50, 60.
Waouh, c'est beau. Et c'est pour ça d'ailleurs que je réédite des ouvrages essentiellement du 19e.
Ouais.
Il y a une plume.
Rappelez-vous, par exemple, Le Comte de Monte Cristo, qui était un livre chapitré, un peu comme Netflix d'aujourd'hui, dans des quotidiens, des journaux type Figaro, enfin d'antan.
Et on suivait les épisodes.
Et Le Comte de Monte Cristo, c'était un roman populaire.
Vous imaginez?
Peut-être faut pas dire populo par rapport à l'époque d'antan, quoi.
C'est pas péjoratif, c'est populaire dans le bon sens du terme. Oui. Je sais pas quelle société cette jeunesse de 20-30 ans, plutôt 20 ans.
Est-ce que vous arrivez à parler de Saint-Louis auprès de ces jeunes?
Moi, je suis très, très content de constater, d'ailleurs pendant le Covid, les gens n'avaient pas beaucoup de choses à faire, si ce n'est de regarder des vidéos. Bon, ça m'a servi. J'ai eu beaucoup de messages de professeurs de collège, puisque c'est au collège qu'on étudie le Moyen-Âge, de professeurs qui me demandaient l'autorisation très, très courtoisement de diffuser les vidéos en cours. J'étais un peu étonné. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont vraiment conscience du parti pris que... Je défends un parti pris, hein. Je ne suis pas en train de dire que je suis objectif. Je n'aime pas les personnes qui disent, je suis objectif. Non, j'ai un parti pris, une vision à défendre. Je m'attache toujours à défendre ce qui s'est passé, la réalité, mais j'ai un parti pris. Et ça, ça m'a rassuré, de voir aussi des élèves. Il y a une personne que je ne connais pas qui a laissé un commentaire qui m'a profondément touché. Et là, je me suis dit, je sais pourquoi je fais ça. Parce qu'au début, on se dit, on fait 300, 400, 1000 vues. On se dit, on prêche un peu dans le désert. Il a dit, je suis retourné à Saint-Denis depuis que je regarde vos vidéos. Je n'y étais jamais allé. Et j'ai, alors je ne sais plus la fin de la phrase, mais en gros, j'ai énormément aimé, apprécié ce lieu chargé d'histoire. Et là, je me suis dit, j'ai réussi à emmener quelqu'un à la basilique de Saint-Denis pour aller voir les tombeaux des rois de France. Donc, quand on va trop loin, peut-être, on peut espérer. Quand la société va trop loin, c'est cyclique, hein, l'histoire. On peut espérer un retour au surnaturel, au transcendant. Il y a énormément de conversions aujourd'hui, il y a énormément de baptêmes aujourd'hui, c'est plutôt rassurant. Je pense vraiment qu'une partie de la population jeune aspire à quelque chose de plus surnaturel.
Est-ce que la France et les Français doivent être essentiellement liés au Christ et au catholicisme et au baptême de Clovis?
J'ai du mal à concevoir qu'on puisse s'imaginer français sans être catholique.
Je vais vous dire pourquoi je pose cette question, mais allez-y.
Être français, se sentir français, c'est adhérer, épouser tout ce que le christianisme a fait, ce que vous êtes aujourd'hui et votre façon de penser. Les personnes qui me disent « je ne suis pas catholique, moi j'ai pas besoin de ça pour avoir des valeurs, de bien, de... » Tout ce que vous pensez aujourd'hui, votre façon de voir le monde a été façonnée par l'Église. Vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas pratiquant, j'entends, mais n'oubliez pas que ce que vous êtes, c'est le fruit de siècles et de siècles de vos parents, grands-parents, etc., qui vous ont amené à avoir cette vision du monde. Vous ne pouvez pas exclure de votre vie la foi catholique, même si vous ne l'êtes pas. Ça a façonné votre façon de penser. Et j'ai eu des débats avec des personnes de mon entourage, d'ailleurs, sur ce sujet, des personnes qui n'étaient pas catholiques. Effectivement, c'est une façon de voir les choses qu'ils n'avaient pas. Ils ne pouvaient pas exclure cela. C'est compliqué aujourd'hui de se dire français. Je pense notamment aux nationalistes, aux patriotes qui se disent ils défendent la France, la France, la France. J'aurais envie de leur dire de façon provocante où êtes-vous le dimanche matin?
Justement, je voulais aller vers ce sens-là parce que voilà, nous sommes Radio Courtoisie, la radio de toutes les droites. Et lorsque vous exposiez chez notre ami Alain Pascal, il y avait en même temps le fameux Institut Iliade à la Maison de la Chimie. Bon, j'aime bien, je les aime bien, ils sont très gentils. Je salue notre ami Petit Jean. avec grand plaisir. Seulement, je constate que l'Institut Iliade promeut, pour des valeurs européennes, le fameux paganisme.
Mmh, bah oui.
Et il se détourne, il tourne le dos au Christ. Et ça, pour le coup, compliqué, pour pas dire plus.
J'ai eu un débat une fois avec une personne qui est dans ces milieux-là, qui est d'ailleurs connue sur les réseaux, qui n'est pas catholique, mais qui défendait cette vision de droite européenne, païenne, etc. Souvent, ces personnes reprochent à la foi catholique son manque de virilité. Et donc, finalement, face à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où il serait tentant, je ne vous y invite pas, ce serait tentant de prendre les armes, se défendre, etc., reconquérir son pays, il trouve que l'Église, aujourd'hui, n'est pas la meilleure arme pour faire ce genre de choses. Alors, je leur dirais deux choses. Effectivement, l'Église moderne d'aujourd'hui ne vous y invite pas. Elle invite exactement à faire l'inverse. Mais quand vous étudiez les grandes époques médiévales, qui étaient des époques infiniment catholiques, nous en avons parlé, c'est tout sauf tiède et mou.
C'est vrai que...
quand Saint-Louis dit au sultan que son Coran, c'est zéro...
Bien sûr. Et puis, il a aussi pris des armes, ce qui n'est pas rien. Mais c'est vrai que cette mouvance où beaucoup de ses membres préfèrent les garçons et où beaucoup de ses membres ne sortent pas hors de certains arrondissements parisiens, c'est vrai, je l'avoue, qu'ils ont des leçons à donner à Saint-Louis et aux catholiques de bravoure. Ça, c'est vrai.
Oui, non, mais bien sûr.
Parce que je remarque quand même que dans le monde, des gens se battent pour leur foi, ils meurent pour leur foi. Mm. Par contre, j'ai jamais vu aucun paganiste mourir pour Toutatis, pour Jupiter, ou pour je ne sais quel dieu de l'arbre, de la forêt noire d'Allemagne.
Bien sûr, et je serais même tenté de dire que la République se satisfait tout à fait de ces personnes qui détestent l'Église catholique. Finalement, c'est une autre branche de la République française. Finalement, hein, vous avez les athées, vous avez les gauchistes, vous avez la droite païenne, etc. Tout ça, ce sont des structures qui combattent. Alors eux, effectivement, on peut discuter. Il y a quand même deux, trois sujets en commun, on est d'accord. Hein. Je ne suis pas en train de comparer l'extrême gauche et la droite païenne.
Oui, mais sur certains sujets, c'est l'immigration. Bon,
vous enlevez
tout le monde, toute personne à peu près normale en 2026 a compris qu'il y avait un problème.
Il n'y a pas besoin d'être de la droite païenne.
On a compris.
Je pense même qu'il y a des gens de gauche qui commencent à s'en agacer.
C'est évident.
J'espère en tout cas. Et donc c'est un peu ce qui me désole, c'est
oui, mais regardez,
de se sentir français.
Certains d'entre eux ont pignon sur rue, bon, pas tant que ça en fait. Mais bon, en tout cas certains l'ont, et ils influencent d'autres jeunes qui peut-être pourraient être dans une bascule vers Saint-Louis ou d'autres.
C'est le cas chez un grand nombre de personnes, j'en suis convaincu puisque j'en ai côtoyé. Des gens qui ont gravité dans ces sphères-là, qui vont finalement... abouti à la religion catholique, parce que souvent, on arrive à un mur au bout d'un moment dans le militantisme. Et la finalité, c'est quoi de tout ça? C'est quoi la finalité? Quand on comprend que la finalité, c'est de se sauver, son âme, celle de sa famille, celle de ses proches et celle de son pays, finalement, on est animé par autre chose, par une dimension infiniment plus spirituelle, surnaturelle, et je suis beaucoup plus en communion avec l'homme médiéval, toute proportion gardée, hein, j'entends, que l'homme païen qui aujourd'hui est relié à qui
Je rappelle quand même que le Christ sacrifié pour justement...
Voilà, c'est fini les sacrifices.
Pour arrêter le sacrifice des païens justement.
Exactement.
Par contre, et j'imagine que cette droite est républicaine, parce que République, elle sacrifie.
Bien sûr, tous les jours. Hein.
Voilà.
C'est des centaines de milliers par an, nous savons tous de quoi nous parlons.
Alors, cher monsieur, votre émission est très intéressante et me fait penser à une phrase de Chateaubriand. Il y a trois choses qui assureront le repos de la France et que l'on ne doit jamais séparer. La religion, le trône et les libertés publiques.
Exactement. Ben oui, le trône a toujours... D'ailleurs, c'est ce que les républicains ont fait en premier à la Révolution. Hein, c'est de détruire le trône et l'autel. Ils avaient très bien compris finalement quelle était la matrice de la foi, de la France. Vous détruisez le trône et l'autel, vous supprimez le père de la nation, le père du ciel, et demain le père de famille. En fait, il faut supprimer les pères. Hein. Et dès lors que vous supprimez les pères, vous n'avez plus aucun repère, et vous avez des jeunes que nous côtoyons au quotidien qui sont complètement perdus. Donc il faut retrouver des pères de famille, hein, des souverains dans leur propre famille, il faut retrouver un père de la nation, le souverain, et le père du ciel.
Et pour mettre une petite pierre à nos amis, Chateaubriand, c'est quand même autre chose qu'un Allemand là, dont on n'est pas vraiment, que moi je ne connais pas vraiment spécialement en fait. Hein. Chateaubriand, c'est quand même quelqu'un. Oui. Vous connaissez cette phrase de Victor Hugo ? J'aimerais être Chateaubriand ou rien.
Oui, c'est vrai.
Vous imaginez ?
C'est vrai que c'est fort.
Voilà, Chateaubriand ou rien. Là, on parle de. Voilà, ça c'est. Et lorsque un personnage pareil prononce ces mots, ça a une signification. Jean-Noël Toubon, je rappelle Saint-Louis sur le chemin de la canonisation. Dites-moi, quel est aujourd'hui l'héritage peut-être ? Est-ce qu'il existe encore un héritage de Saint-Louis ?
Oui, la justice dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est un héritage direct de Saint-Louis. La possibilité de faire appel, on lui doit. La possibilité d'apporter des preuves, donc cesser avec l'ordalie qui était le jugement de Dieu, c'est-à-dire que si on vous mettait dans l'eau et si vous mouriez, bah finalement vous étiez coupable. C'était très barbare. Et Saint-Louis apporte cette volonté d'apporter la preuve de votre culpabilité, la possibilité d'avoir un avocat pour vous défendre, mais surtout la possibilité de faire appel qui a été une révolution à l'époque du XIIIe siècle, c'est-à-dire que si vous n'étiez pas satisfait de la justice du seigneur local, vous pouviez aller voir Saint-Louis. Alors à l'époque, on pouvait aller voir les rois, en fait. C'est ça qui est aussi nouveau. Hein. Il n'y avait pas la garde républicaine qui était devant. On pouvait le côtoyer au quotidien. Hein. Eh bien, vous pouviez demander la bonne justice à Saint-Louis, avec cette fameuse image d'Épinal, du chêne de Saint-Louis. Et il rendait justice.
C'était réel, ça, le chêne, pour le coup.
Ça a eu lieu, oui, mais c'est les historiens de la Troisième République qui ont mis cette image d'Épinal dans la tête des petits Français. C'est pas mal, hein. C'est pas problématique, mais ça a eu lieu quelquefois à Vincennes, effectivement. Il s'asseyait, il écoutait les plaintes de sa population, et il rendait justice. Et après, ça s'est professionnalisé, donc ça n'a plus vraiment eu lieu. Au début, il y avait très peu d'affaires, donc il pouvait en traiter un grand nombre, Saint-Louis, mais après, il y a eu ces hommes de loi qui sont arrivés, le Parlement s'est structuré, et ça se déroulait de moins en moins.
Mais c'est vrai que cette proximité du roi avec sa population, on sait par exemple que le Louvre, quand même, palais du Louvre, quoi, c'est quand même pas rien, était tellement proche du peuple, contrairement au palais de l'Élysée, qui lui, bon, il faut marcher dans le trottoir d'en face.
Bah ça dit tout. Avec, hein.
Bah oui, ça dit tout. Ça, je pense que les républicains se disent, ils le savent, hein, ils savent qu'ils ne sont pas légitimes, malgré le vote.
Peur du peuple.
En plus.
Et d'ailleurs, Louis IX, quand il était enfant, la cour du palais de sur la ligne de la Cité était remplie d'indigents, de pauvres, de mendiants. Et Louis IX passait son temps à donner un maximum d'argent à ces pauvres personnes qui vivaient, résidaient dans la cour du palais du roi, finalement. Ce qu'on s'imagine devant l'Élysée, dans la cour de l'Élysée, avoir des pauvres, des indigents, et de voir Macron donner une piécette à ces indigents. Non, non.
On a une personne qui nous a appelé, alors je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur. Les croisés et les templiers sont la représentation virile du combat. Par la croix et par l'épée, tu vaincras Saint-Michel Archange, Sainte-Jeanne d'Arc et bien d'autres sont représentés avec une épée.
C'est ce que la droite païenne devrait avoir comme symbole, comme figure tutélaire.
Il préfère, je pense, les parties fines de M. Jacques Lang. On y est mieux là-bas, je crois.
Est-ce que Sainte-Jeanne d'Arc était une femme molle Non.
Alors, messieurs, vous l'avez déjà évoqué, sous Philippe le Bel, ou pendant Louis IX, ou durant le règne des deux rois, on fit donc brûler des livres juifs. Vous l'avez bien indiqué, il s'agit du Talmud, et vous avez exprimé pourquoi, en raison des propos blessants et insultants contre Jésus
surtout.
Et contre sa mère. Question. Ces livres brûlés, décidément, on se réchauffait beaucoup par le feu en ces temps, toute source de combustible confondu, livre humain, ces livres immolés étaient-ils seulement et uniquement des Talmuds ou bien avaient-ils la Torah ? On aime bien le ton sympathique de vos émissions. Mais je crois que la Torah, c'est l'Ancien Testament.
Oui, c'est ça, c'est le
donc,
texte.
Non.
Donc non, c'est impossible. Non, c'était essentiellement le Talmud. Et d'ailleurs, pour être très honnête, Donc ils sont allés dans les synagogues, ils sont allés chercher les textes, ils les ont ramenés, etc. Ça a été brûlé sur place publique, en place de grève. Mais très peu de temps après, le Talmud est revenu dans le royaume de France, finalement. Il y avait une volonté de, effectivement, de marquer le coup, peut-être aussi. Mais je pense qu'il n'y avait pas cette naïveté de croire que plus aucun texte issu du Talmud serait disponible en France. Le Talmud a continué à se propager par la suite après le procès. Donc vous voyez bien que ce n'était pas non plus d'une virulence incroyable. D'ailleurs, pendant le procès, Blanche de Castille, à l'égard du rabbin de Paris, lui explique, le rabbin, déjà à l'époque, hein, il avait cette volonté d'expliquer à la couronne de France qu'ils étaient méchants et qu'ils étaient antisémites. Évidemment, ce n'était pas en ces termes, c'est ce que ça voulait dire. Blanche de Castille a bien stipulé à ce rabbin et à ceux qui étaient là, non, non, on a toujours cherché à vous protéger, parce qu'effectivement, ça, on oublie toujours de le dire. Hein. La couronne de France protégeait les juifs en tant qu'individus. Il n'y avait pas cette volonté de jugement personnel à titre individuel sur le juif, entre guillemets. Non, c'était ça, son Talmud qui posait problème. Ce n'était pas l'individualité, le juif. Donc la couronne de France a toujours protégé, à l'époque de Saint-Louis, le juif en tant que tel. Donc Blanche de Castille lui a rappelé quand même, finalement.
Elle lui a bien rappelé
que non, on vous protège, vous le savez très bien.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Rien, j'imagine.
Bah après le procès, bah, y a eu des Talmuds brûlés.
Hein, voilà, c'est tout. Je veux dire, lorsque le rabbin est intervenu, qu'est-ce qui s'est passé?
Bah rien.
Le
procès a continué en ces termes. Il y a eu un débat entre la couronne et puis les rabbins de Paris.
Mais c'est fou cette volonté de faire. De mettre la tâche de l'opprobre là sur Saint-Louis. Il faut se le faire?
Je pense, parce que il représente tout ce que la République déteste, mais tout. Hein. Je parlais de la foi catholique, mais c'est aussi sa façon de traiter les affaires courantes. Le principe même de la doctrine du Christ-Roi, c'est que dans toutes les institutions, il doit y avoir le Christ. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites. Et Saint-Louis était de ces hommes-là. Et on ne s'imagine pas aujourd'hui dire à la population française, désormais, donc on va consacrer la France au Sacré-Cœur, etc. Ensuite, dans les institutions judiciaires, administratives, etc., la doctrine du Christ-Roi va être appliquée, c'est-à-dire le bien commun, la justice, etc., défendre l'opprimé. Etc. Le Français ne pourrait pas concevoir, accepter l'idée selon laquelle aujourd'hui, ce sera la colonne vertébrale même de nos gouvernements, qui est la doctrine du Christ-Roi. C'est inenvisageable. Pour la République, effectivement, Saint-Louis représente l'antithèse parfaite de ce qu'ils font aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on défend le mal, de mon point de vue, de catholique, etc. Pour moi, tout ce qu'on pratique et défend aujourd'hui s'apparente plutôt au mal qu'au bien. Donc, si on a une vision surnaturelle des choses, qui représente le mal et qui représente le bien.
Est-ce qu'on a eu parmi ses successeurs quelqu'un qui lui était idéologiquement proche?
Je pense tout de suite
à Louis XIII,
à Louis XIII
qui a consacré la France.
C'est un roi qui avait compris l'importance même de se mettre sous l'autorité légitime du Christ-Roi. In fine, c'est le Christ qui est le roi. Le roi n'est que lieutenant. Il sert le Christ. C'est pas lui. C'est ça qui fait aussi la différence avec l'époque Renaissance, Ancien Régime, c'est que le roi se prenait pour Dieu. Alors, à l'époque médiévale, le roi ne se prenait jamais pour Dieu. Il se prenait simplement pour un lieutenant. Il servait Dieu. Donc Louis XIII a eu cette volonté de bien mettre en lumière ça. Et ça a été le cas aussi avec Garcia Moreno. Donc là, on change totalement d'époque. Puisqu'on est en Équateur, c'est un président de la République qui a consacré l'Équateur au Sacré-Cœur, hein, qui a été assassiné par des francs-maçons à la fin. Donc c'est aussi un personnage, il n'y a pas forcément besoin d'être en monarchie. Hein. On peut être en République.
Non mais bien sûr, parce qu'il faut aussi dire aux gens qu'il y a République.
Ça veut rien.
Voilà. Il y a des dizaines de républiques.
Un type de gouvernement,
voilà,
c'est tout.
Comme il y a des dizaines de monarchies
bien sûr,
aussi.
Constitutionnelles,
voilà.
Droit divin, etc. Ben là, c'est ça. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est tous ces personnages-là, Louis XIII, Saint-Louis, Garcia Moreno, plus récemment, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Quelle est leur première décision importante? C'est de bien montrer qu'ils ne sont que lieutenants. Ils servent quelqu'un. Aujourd'hui, nos dirigeants servent, non pas Dieu, mais le dieu argent, qui, en définitive, on sait qui c'est.
Merci à vous, cher Jean-Noël Toubon.
Merci.
La canonisation de Saint-Louis, aux éditions
Vox Gallia, vous pouvez retrouver dans toutes les librairies de France.
Vous avez un site.
Voilà, edition-voxgallia.fr.
Pourquoi Vox Gallia? Qu'est-ce que ça veut dire?
Je trouvais ça joli, la voix des Francs.
D'accord.
Voilà. Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin.
Okay.
Parfois, d'un point de vue esthétique, ça me plaisait.
Donc, Vox Gallia, vous avez peut-être des dédicaces, des choses comme ça, bientôt?
Alors oui, cet après-midi, à partir de 15h, je suis à la librairie française.
Ah, la librairie française, allez-y.
Pour signer différents ouvrages, voilà. Je suis également présent aux Journées catholiques de France, le 13 et 14 juin, c'est auprès de Rennes. Deux journées exceptionnelles pour défendre la transmission et l'éducation des enfants, c'est la thématique de cette année. Je suis dans l'organisation, donc j'en parle d'autant plus aisément. Donc c'est très important de vous y rendre. Vous allez rencontrer des gens qui pensent bien ou mal, selon...
Merci à vous, cher Jean-Noël. Et puis, je voulais rendre un hommage et dédier cette émission à quelqu'un qu'on aimait beaucoup, qui a disparu. C'est le frère Thierry.
Voilà, j'ai appris une nouvelle.
Qui travaillait aussi à la librairie française. Et on pense vraiment à lui. Il nous manquera et nous dédions toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Merci à vous, cher Jean-Noël Toubon.
Merci de m'avoir invité.
On se retrouve semaine prochaine, même endroit, même heure. Allez, salut.
Vous venez d'entendre le libre journal des controverses dirigé par Mike Borowski, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 2 mai 2026 de 10h30 à midi et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous le faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros. Ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.